Le journal Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Washington et Pékin basculent dans une guerre commerciale inédite. Les nouvelles taxes douanières américaines contre plus de 800 produits chinois sont entrées en vigueur à minuit. Les détails de Grégory Phillips au début de ce journal.
Le Parlement européen a rejeté hier la directive copyright qui doit moderniser le droit d'auteur. C'est une petite victoire pour les géants du numérique. Pierre Benazet va nous raconter la bataille qui se joue.
Le mondial de foot est-il le mondial de la misogynie? Les femmes russes insultées sur les réseaux sociaux, jugées trop légères avec les supporters étrangers. Le récit de Claude Brouillot dans un instant.
Quel résultat pour la coopération France-Qatar en matière de lutte contre le terrorisme? Analyse à suivre de la consultante indépendante Naïda Nakadeh. L'émir du Qatar est reçu ce midi à l'Élysée.
Et puis la cour d'assises de Créteil rend son verdict aujourd'hui dans l'affaire de l'agression antisémite. Antoine Maret a assisté aux dernières audiences hier. Les États-Unis ont lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique. À Pékin, le ministère du Commerce réagit ce matin après l'imposition par les États-Unis de taxes douanières depuis minuit. Des taxes de 25% sur 34 milliards d'importations chinoises, ce n'est pas rien. Pour Donald Trump, il s'agit de compenser le vol de propriétés intellectuelles et de technologies. Le bras de fer ne fait que commencer, Grégory Phillips.
Pour l'instant, ces droits de douane à 25% s'appliquent à un peu plus de 800 produits fabriqués en Chine, des voitures, des pièces d'avion ou encore des disques durs d'ordinateur. Et de son côté, Pékin réplique sur un volume identique avec des taxes sur le soja américain, les pièces automobiles ou encore les produits de la mer tels que la langouste d'importation. Mais l'administration Trump semble décidée à s'engager dans un bras de fer beaucoup plus musclé. Ce n'est que le début de cette bataille, a promis Trump hier soir à ses supporters lors d'un meeting dans le Montana. En août, nous taxerons 16 milliards de plus, puis 200 milliards, puis 200 autres, pour un total envisagé de 450 milliards de dollars. Si de tels niveaux sont atteints, l'Amérique mènera là sa politique la plus protectionniste depuis les années 30, qui avait précédé la Grande Dépression. Trump poursuit donc l'application de son slogan de campagne, America First, l'Amérique d'abord, clamant que les Chinois, notamment, ont trop longtemps tiré avantage des Américains et que c'est terminé. Il le fait malgré la mise en garde de la Chambre de commerce américaine, qui s'inquiète des mesures de rétorsion adoptées par Pékin et qui pourraient impacter les entreprises du pays.
Correspondance à Washington de Grégory Phillips. Donald Trump qui désavoue son ministre de l'Environnement. La situation était devenue intenable pour la Maison-Blanche. Scott Pruitt était englué dans un trop grand nombre de scandales sur son train de vie ou encore sur son utilisation des fonds publics. Il devra donc démissionner. Scott Pruitt aura été l'artisan du retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. Le Parlement européen dit non à la directive copyright, directive qui entend moderniser le droit d'auteur. La législation actuelle datant de 2001. L'âpre bataille entre les artistes, les créateurs, les activistes du web et les GAFAM ont eu raison de cette proposition. Le texte sera donc rediscuté à la rentrée, Pierre Benazet.
Par 318 voix contre 278, les députés européens ont repoussé la réforme du droit d'auteur à la prochaine session plénière en septembre. Ils débattront donc à nouveau du texte et pourront à loisir l'amender. Ce texte, présenté aux députés suite à son adoption par la commission des affaires juridiques du Parlement, présente trois innovations principales. D'abord, un droit dit « droit voisin » pour que tous les organes de presse puissent être rétribués lors de reproduction de contenu leur appartenant. Ensuite, le principe d'un paiement lors de publication de liens. Et enfin, une meilleure rémunération des auteurs. Ce texte est ardemment soutenu par des figures de proue de la scène artistique comme Paul McCartney ou encore Jean-Michel Jarre qui préside la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. En revanche, il est combattu par les géants d'Internet qui craignent de perdre la poule aux œufs d'or, mais aussi par ceux qui défendent l'aspect libre et collaboratif d'Internet, comme Wikipédia par exemple. Ce texte déchaîne les passions au sein du Parlement européen en suivant des lignes de fracture qui divisent au sein même des familles politiques entre ceux qui veulent une juste rémunération des détenteurs de la propriété intellectuelle et ceux qui accusent ce texte d'être liberticide et mal ficelé.
Correspondance à Bruxelles de Pierre Benazet et vous pouvez retrouver un dossier de Cécile de Kervas-Doué sur ce sujet sur notre site internet franceculture.fr. En Grande-Bretagne, la population s'inquiète après un deuxième empoisonnement au Novichok. Un homme et une femme toujours hospitalisés à Salisbury. Le Novichok, cette même substance toxique utilisée en mars dernier contre l'ex-agent russe Sergei Skripal. Derrière toutes ces attaques se trouve la Russie. C'est ce que déclare un chimiste russe dissident et exilé aux États-Unis. Il a a travaillé pendant des années sur le Novitchok. Nous l'entendrons dans le journal de 9h. La Russie où le mondial se poursuit. La France affronte l'Uruguay à 16h. Et deuxième quart de finale du jour, le Brésil contre la Belgique. C'est à 20h. Un mondial qui brille également pour sa misogynie et ses attaques sexistes. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, il est reproché aux femmes russes de céder trop facilement aux avances des supporters étrangers, Claude Bruyot.
Tout est parti d'un article du Moskovski comme Smollett, ce pourtant pas le plus réactionnaire des journaux de la capitale. Le quotidien assurait dans ses colonnes que les femmes russes cédaient trop facilement à ses yeux aux avances des supporters étrangers présents dans les grandes villes depuis 3 semaines. En qualificatif plus virulent, le journal dénonçait même le fait que la simple écoute d'une langue étrangère suffisait à séduire leurs compatriotes féminines, fustigeant celles qui iraient jusqu'à céder aux avances des fans venus notamment d'Amérique du Sud, mais aussi d'Europe occidentale. Les réseaux sociaux se sont ensuite emparés de la polémique, d'où il ressort nettement que derrière la posture accueillante des Russes en général durant la Coupe du Monde, subsiste un vieux fond de machisme, voire de sexisme, qui ont obligé le comité russe d'organisation à se fendre d'une déclaration officielle dans laquelle il est demandé à tous les supporters de respecter totalement la gente féminine durant leur séjour en Russie. Un rappel destiné également à certains fans sud-américains qui profitaient de la barrière du langage pour filmer et diffuser les images de femmes russes en train de répéter des insanités en espagnol, pensant qu'il s'agissait de slogans sportifs nationaux.
Correspondance à Moscou de Claude Bruyot.
8h06 sur France Culture, la suite du journal Anne Fauconberg. C'est un déplacement stratégique pour l'émir du Qatar. Il est reçu ce midi à l'Elysée.
Déplacement stratégique, c'est vrai, pour Tamim Ben Ahmad Al Thani, dont le pays est toujours soumis au boycott de ses voisins. Dans ce contexte, il est donc important de s'afficher à l'étranger. Visite qui intervient aussi 6 mois après un voyage d'Emmanuel Macron à Doha, au cours duquel d'importants contrats ont été signés. La coopération France-Qatar, elle est ancienne. Elle concerne à la fois l'économie et la sécurité, avec des engagements du Qatar en matière de lutte contre le terrorisme, mais pour Naïda Nakad, journaliste et consultante indépendante, sans beaucoup de résultats.
Je ne vois pas comment aujourd'hui le Qatar peut dire qu'il a fait de grands efforts ou qu'il a changé ou que quiconque pourrait aujourd'hui le convaincre de le faire réellement, parce qu'il y a la communication d'un côté et il y a la réalité des faits. La réalité des faits est que le Qatar continue de soutenir les frères musulmans. La preuve, Al-Qaradawi, qui est le chef spirituel des frères musulmans, pour la faire brève, vit toujours là-bas et continue à protéger des personnes qui sont reconnues par l'ONU et par les États-Unis comme ayant financé des groupes terroristes comme Al-Qaïda. Et je ne vois pas comment un pays comme la France pourrait boycotter le Qatar, à moins qu'il y ait effectivement des attentats prouvés comme étant financés par le Qatar. C'est très difficile à prouver ce genre de choses. Mais en même temps, il faut savoir que dans un pays comme celui-là, il est difficile qu'il y ait des personnes privées qui financent des entités terroristes sans que l'État le sache. Donc je pense qu'on est en train de jouer sur les mots.
Des propos recueillis par Mathieu Laurent. Aux assises du Val-de-Marne, le verdict est rendu aujourd'hui dans l'affaire du cambriolage et du viol qui s'était déroulé à Créteil en décembre 2014. 3 hommes sont jugés pour avoir agressé une femme et son compagnon juif au domicile des parents de ce dernier. L'avocate générale a réclamé 10 à 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre des 3 accusés, dont l'un est en fuite. Vous avez assisté hier aux plaidoiries des avocats de la défense, Antoine Marette.
Ils ne sont pas antisémites, ils sont ignorants, ils baignent dans une ignorance crasse. C'est ainsi que l'avocate de l'un des agresseurs a répondu aux réquisitions de la procureure. Maître Marie Dauzé a longuement dénoncé une qualification antisémite décidée au niveau ministériel moins de 48 heures après les faits. Elle s'en est également prise à la médiatisation qu'elle a jugée outrancière de cette affaire. Dès le début, les dés étaient jetés, a-t-elle estimé. Même tonalité chez maître Alain Belot, avocat de l'un des autres agresseurs. Il demande à la Cour de ne pas juger la généralité des crimes antisémites, mais les branquignoles, pour reprendre son expression, qui ont commis ce crime. Car le jour du cambriolage, c'est le grand absent de ce procès qui a tenu les propos antisémites. évoquant notamment ses frères de Palestine. C'est lui qui lance des couteaux sur Jonathan avant de s'en prendre aux symboles juifs présents dans l'appartement. Et puis il reste la question du viol. Aucun accusé ne reconnaît en être l'auteur. Laurine sait qu'il a la peau noire, comme deux des trois accusés qui avaient le visage dissimulé au moment des faits. Mais un seul d'entre eux a été mis en examen et renvoyé pour ce crime, ce qui provoque la colère de son avocate, qui a contredit un à un chacun des arguments avancés sur la culpabilité de son client.
Antoine Marette. À Nantes, c'était une nuit encore mouvementée. Des voitures brûlées, un lycée et une station-service qui ont aussi fait l'objet de tentatives d'incendie. Trois personnes ont été interpellées. Des violences qui font suite à la mort d'un jeune homme en début de semaine tué par un policier dans le quartier du Breil. Un millier de personnes ont par ailleurs participé hier soir à une marche blanche pour réclamer vérité et justice. Et puis Emmanuel Macron dénonce sur Twitter l'ignominie et la lâcheté de deux voyous. En Seine-et-Marne, un couple de jeunes policiers a été agressé hier soir à Autis. Ils ont été frappés par deux hommes devant leur fillette de 3 ans. Le couple est actuellement à l'hôpital. La piste d'une vengeance en lien avec une intervention de la policière serait privilégiée par les enquêteurs. À la SNCF, pour ce premier jour de grand départ en vacances, le trafic est perturbé par une grève aujourd'hui et demain. Mais après 3 mois de grève unitaire, cette séquence est moins importante, Catherine Pétillon.
Cette fois, seuls deux syndicats appellent à la grève, la CGT Cheminots et Sudrail. Et même si la réforme ferroviaire a été promulguée fin juin, du côté de Sudrail, pas question de relâcher la pression. Le syndicat continue à demander l'abrogation du texte. Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail.
On est toujours déterminé, c'est surtout pas le champ du signe. On veut pas de cette loi. Cette loi, elle est pas bonne. C'est parce qu'elle est signée qu'elle est bonne. Donc aujourd'hui, on est toujours sur le retrait de cette loi. Parce que si cette loi est mise en place, c'est une catastrophe. Peut-être que les gens vont se dire, les cheminots nous ennuient le jour des départs en vacances, mais ils ont tout intérêt à se retrouver avec nous dans la rue à la rentrée, parce que s'ils veulent garder leur sécurité sociale et leurs services publics, que ce soit l'éducation, la santé ou le ferroviaire, qu'on leur annonce et ce qu'on leur prépare, c'est quand même une sacrée catastrophe. Nous, on se bat pour un service public, on se bat pour tous les services publics en général.
Toute la loi n'est pas écrite et nous devons peser sur les textes à venir, explique de son côté la CGT Cheminots. Il s'agit en l'occurrence des décrets d'application de la loi. L'UNSA et la CFDT, les deux autres syndicats représentatifs à la SNCF, ont eux décidé de ne pas faire grève pendant l'été, mais il n'est pas exclu pour autant qu'ils rejoignent le mouvement à la rentrée. À ce moment-là se joueront d'autres négociations importantes, à savoir la future convention collective de la branche ferroviaire, autour de laquelle les discussions ont déjà commencé, ainsi que la future réforme des retraites.
Et j'ajoute que la CGT prévoit d'organiser une nouvelle grève à la SNCF le 19 juillet et d'autres en août. C'est ce que vient de dire Laurent Brun sur la chaîne CNews.
Avec Force Ouvrière, Pascal Pavageau.
Ça dépendra de ce que décideront mes camarades, mais pour l'instant, le positionnement de la fédération FOD Cheminots, c'est de soutenir dans les assemblées générales les mouvements dès lors que nos camarades le souhaitent. Donc là-dessus, il y a plutôt une intersyndicale en réalité qui se maintient au-delà des prises de position des uns des autres au niveau national.
Merci Pascal Pavageau.
La réforme de l'audiovisuel public pourrait conduire à la suppression de 2 chaînes côté France Télévisions. Alors que l'avenir de France 4, la chaîne jeunesse du groupe, semble déjà scellé, l'inquiétude des salariés grandit au sujet de France O, la chaîne des Outre-mer. La semaine dernière, Emmanuel Macron a dénoncé de faibles audiences, des propos à rebours de sa promesse de campagne. Il assurait que la chaîne serait préservée, d'où la colère de la centaine de salariés qui se sont constitués en collectif. Abdelak El Idriss. Ici.
La chaîne a déjà reçu le soutien des députés des Outre-mer qui ont adopté une motion demandant le maintien et le développement de France O sur la TNT. C'est l'un des enjeux de la réforme. Les salariés se battent contre la suppression de leur chaîne, mais également contre un éventuel basculement sur Internet. Véronique Paloma est responsable des programmes culturels au sein de France O.
On a beau nous dire France O ne va pas disparaître, on sait très bien que la menace porte sur France O sur la TNT. Et nous, vraiment, on se bat pour ça parce qu'on sait quelles pourraient être les conséquences du passage de France O sur le web. On connaît la fracture numérique et sociale. Il y a 25% des Français qui n'ont pas accès au web. Il y en a encore 55% qui préfèrent regarder effectivement les programmes à la télévision, dans leur téléviseur. C'est le moment ou jamais de défendre ce que l'on est.
Hier, la délégation du Sénat aux Outre-mer a également réservé un accueil bienveillant aux représentants de la chaîne, même s'ils n'étaient pas très nombreux lors des auditions. Le sénateur de Saint-Barthélemy, Michel Magras, a regretté l'urgence dans laquelle sa délégation a travaillé. Le sénateur Les Républicains ne veut pas servir de faire-valoir. Et il a réaffirmé le rôle de la délégation aux Outre-mer concernant l'avenir de France O.
Il ne faudrait pas qu'on continue à nous habituer à une méthode qui consiste à ouvrir les débats lorsque les décisions sont prises. Maintenant, les intervenants représentants de la commission de réflexion nous ont clairement dit que nous sommes au stade de réflexion. Il a été dit que les décisions seraient prises en 2019. J'espère simplement ne pas découvrir les décisions la semaine prochaine dans la presse.
Un premier rapport d'étape sur la réforme de l'audiovisuel public doit être remis la semaine prochaine, mais le gouvernement répète que les discussions continueront encore à l'automne.
Explication Abdelak El Idrissi. La météo, elle s'améliore avec de belles éclaircies ce matin sur le nord-ouest. Le ciel reste orageux sur l'est du pays, temps lumineux sur les bords de la Méditerranée et les températures en ce moment. 20 à Brest, 21 à Strasbourg et Bordeaux, 22 à Lyon, 24 à Lille et Paris et jusqu'à 27 degrés à Marseille et Ajaccio.